France Inter.
C'est vrai que c'est beau ici. Genre si on prenait le vignoble à zéro, on pourrait faire un vin magnifique.
Mais il y a tout ici, y a absolument tout.
CO2, mon amour.
Il y a des bois, il y a des vignes, il y a des fruits, il y a des légumes.
Il y a même une source.
Beaucoup de gens pourraient vivre ici.
Ouais. Ici, au moins 100. On pourrait faire un très grand potager là-bas.
Ouais.
Planter des pommiers, des poiriers, un peu de blé.
On pourrait agrandir la basse-cour.
Oh oui, les œufs frais.
Denis Chessou.
Vive la révolution !
Vive la révolution !
Eh bien oui, on a entendu le mot source. Ben, les sources, c'est justement un des titres de Marie-Hélène Lafont. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Mathias Saléon à la technique, Camille Blanès, notre collaboratrice, et c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Et le tout va commencer, comme d'habitude, par un petit édito. Ah, ça s'agitait dans tous les sens sur la Terre. Elle n'y pouvait rien. Elle supportait ces drôles de mammifères. Ça devenait dangereux, surtout pour eux, comme un volcan redevenu fiévreux. Tout le monde voulait être chef, redécouper le gâteau de cette merveille de vie, petit miracle au cœur de l'univers, perdu sur son radeau. Ouvrir, avaler son ventre, aspirer son or noir, ses diamants, son cobalt, ses terres rares, l'avenir de ses enfants. Les empires du pire étaient à la manœuvre. L'humain était devenu un pion économique et pour beaucoup de la chair à basses œuvres. Les humains, produits et fournisseurs de données, nourrissaient la bête, aimaient en rythme dansé, au son des algorithmes, à genoux vassalisés. Alors on s'agitait à 27, mais chaque coq défendait sa nation. Autant on emporte l'OTAN. Mais sauront-ils vraiment faire front tous ces imprévoyants ? L'individualisme, le culte de la performance, était à leur apogée. Tu trébuches et tu tombes. Ah mon vieux, ah bah oui, on est désolé, mais bonne chance, hein, nous on continue. Faut jamais s'arrêter. L'orgueil en bandoulière, une empathie aux abonnés absents, un faiseur de chaos, un psychopathe du climat faisait trembler l'Europe et ses manants. Un colt à la main, il voulait poser son pied sur Panama, Venezuela, les terres du Groenland, remplies de dessous chics et trébuchants. La Terre est un espace fini, tout s'achète. Les humains, leur conscience, les États, s'il y a des vendeurs. Et s'il n'y en a pas, on les volera. C'est la tragédie des biens communs sur un air de blues, au sous-sol gorgé de minerais qui feront tourner nos voitures, nos data centers pour fabriquer des fake news. Et pourtant, t'as de beaux yeux, tu sais, la Terre. Ben oui, ils ont mis un code-barre sur tout ce qu'ils pouvaient, ils en sont sûrs, ils en sont fiers. Et aujourd'hui, la démocratie est un obstacle. Alors où est l'interrupteur du siècle des Lumières ? Eh oui, où êtes-vous, Tocqueville, Lincoln, Lafayette ? Heureusement, des femmes, des enfants, des hommes et d'autres rêves tracent de nouveaux chemins loin de ces autoroutes, car ils savent tous qu'au bout, c'est la banqueroute. Les animaux pelotonnaient dans leur été ou leur hiver, les regards défaire. Ils ne comprenaient pas tout ce gâchis et cette rage. Chacun a son territoire chez les animaux, il défend. Mais une fois acquis, personne n'en veut davantage. Tiens, les pitis de la météo nous prédisent une descente d'air polaire glacial sur tout le nord de l'Europe. L'hiver savait qu'il reprendrait la main. Et qu'on arrête de lui dire qu'il est au-dessus des normales saisonnières. Ah, il va faire le boulot. Ah bah oui, ça va jeter un froid. Alors faisons face, chantèrent les oiseaux, la tête enfoncée dans les plumes. Si vous êtes de la famille des flamants roses, des hérons ou bécasseaux arpentant les plages, eh ben regardez-les, c'est une technique largement éprouvée quand on a les pieds dans le bac à glaçons. Apprendre à tenir en équilibre sur une patte en plaquant l'autre sous le duvet. Bon, alors je sais, c'est un conseil de canard boiteux. Mais combien de temps encore saurons-nous, humains, tenir en équilibre et garder en nous le respect ? Et nous serons donc cantaliennes et cantaliens avec l'écrivaine Marie-Hélène Lafont. Restez, ça va être un bonheur.
Never.
Juliette l'Orphelin a choisi donc pour France Inter et Sous de mon amour ce bar italien. Ça sent le Cantal.
Le Cantal est une île. Hein. Alexandre Vialat le disait très bien. Et je suis très insulaire d'ailleurs, définitivement. Et nous sommes sur un des sommets de l'île, on pourrait dire. Nous sommes sur un plateau, en fait, qui culmine à 1600 mètres d'altitude. Hein. Bon, le point culminant du Cantal, ça doit être le plomb du Cantal, un peu plus de 1800, donc on n'est pas loin. Et ce plateau dit plateau du Limon, c'est mon plateau d'enfance, d'adolescence, mon plateau intime, vernaculaire, familier, et cependant infiniment sauvage, hein, et voué à la sauvagine, celle que Giono célèbre magnifiquement.
Alors la sauvagine.
Les renards, les blaireaux, les chevreuils. Je ne sache pas qu'il y ait de cerf ici, mais il y a forcément du sanglier. Hein, du renard, ici, on en voit, on en croise en majesté. Hein.
Et oui, on en voit du renard. Marie-Hélène Lafont vous dira que la montagne n'a rien à voir avec les Alpes et certaines pentes orgueilleuses. Non, la montagne cantalienne est une estive. Et le regard de notre écrivaine se situe à peu près à 1000 mètres d'altitude. En dessous, si vous voulez, c'est quasiment le pays de Cocagne. Alors ici, c'est le pays d'en haut, qui a d'ailleurs été le titre d'un livre d'entretien chez Artaud. Et nous sommes entre le Puy-Marie et les 41 km de la Santoire, donc la rivière qui est de cœur, hein, qui coule dans tous ces livres. Mais les hauts pays ne sont jamais vides. Et dans le Cantal, eh ben, tout accroche le regard. Moi, je connais bien la vallée de la Jordanne, la Châtaigneraie au sud, les Planèzes, le Césalier, le plomb du Cantal, que sais-je, bref, donc tout est vraiment très très chouette. Et dans ce Cantal, Marie-Hélène Lafont en est. C'est revendiqué, habité, nourri, source et résurgence de mots qui disent le Cantal rude et le Cantal beau. Elle veut garder une trace de tout ce qui est voué à disparaître dans cette maîtresse volcanique et ses silences entassés depuis des générations. Bon, alors moi je voulais pas évidemment l'avoir en studio parce que d'abord d'autres collègues le font très très bien et puis tous les deux on aurait été un peu à l'étroit. Donc chez elle, dehors, dans cet hiver qui vous fait tenir ou repartir, dans ce Cantal dans lequel elle tremble sa plume, on était entre Condat, Rion, Esmontagne et Murat, donc avec l'autrice des sources, de l'album, de l'histoire du fils et puis son dernier qui s'appelle Hors-Champ, c'est une petite merveille aux éditions Buchet-Chastel. On a des burons, des vigies à la crête des années au loin et des fermes planquées du vent comme elles peuvent avec Marie-Hélène Lafont dans le Cantal.
Plateau du Limon, j'y suis non pas née mais quasiment plantée comme un arbre depuis mon enfance et mon adolescence.
Et la ferme des parents, elle était un peu plus bas là.
En contrebas. Le plateau du Limon, ce sont les points culminants de la commune dans laquelle j'ai grandi. Et la ferme de mes parents, dans la vallée de la Santoire, à 987 mètres d'altitude, ou à peu près, c'est la partie basse de la commune. Donc, sur ce plateau du Limon, quand j'étais enfant, vers 10-12 ans, et ensuite adolescente, je pouvais, en partant à pied de la ferme de mes parents, y venir, le dimanche après-midi, par exemple. Je marchais un peu plus d'une heure depuis la ferme, en montant, et j'étais sur le plateau. Et je changeais de paysage, parce que la ferme, et dans la vallée. Et la vallée, elle est assez bocagère. On y a des prés gras, on y a des arbres drus. Quand on monte sur le plateau, ici, 1200, ça culmine à 1600, le plateau du Limon, c'est beaucoup plus émacié. Hein. Vous avez le vent qui galope, vous avez le ciel qui galope, vous avez quelques chemins creux, comme celui-là, un chemin parfaitement parfait. Voilà. Et vous avez la vue sur les monts du Sancy.
Ah, ils sont là-bas, ça y est.
Là-haut, voilà, vers le nord.
Donc la Dore et la Dogne.
Voilà, c'est là-bas.
Naissent là-bas.
Et de ce côté-là, ce sont les monts du Sancy. Et de l'autre côté, donc, Puy-Marie, les monts du Cantal.
Quand on parle de château d'eau, on y est, parce qu'en étoile, donc, on a un certain nombre de rivières qui partent, et dont votre Santoire.
Absolument. Et le maître d'école nous disait, M. Brunet, qui habite à Dienne dans la vallée de Santoire, nous enseignait cette phrase merveilleuse, l'Auvergne est le château d'eau de la France. Ouais. Voilà. Et là, c'est extrêmement sensible. Surtout que ici, on les entend, les eaux qui coulent de tous les côtés. Là, vous avez le ruisseau du Lémé, derrière nous, le ruisseau de la Grôle, hein, qui va aller se jeter dans la petite rue. Le ruisseau du Lémé va aller se jeter dans la Santoire. La Santoire et la rue se rejoindront à Condat, et tout ça descendra gentiment vers la Dordogne, et ensuite, on sait ce qu'il advient, hein, de la belle partance vers l'océan.
Est-ce qu'on est un peu sur une ligne de flottaison, Marie-Hélène? C'est-à-dire qu'on est à peu près à 1000 mètres d'altitude?
Là, on est même un peu plus haut, là, je pense qu'on est à 1100. Et quand vous dites ligne de flottaison, pour moi, ça fait immédiatement image, parce que même quand j'étais enfant et adolescente, moi qui ai vu la mer relativement tard, et dont l'imaginaire n'est pas du tout maritime, hein, eh bien, quand j'étais ici, j'avais le sentiment, et c'est peut-être ce que j'allais chercher, hein, d'être sous le ciel immense et que le plateau tel que je le voyais se déployer comme ça, avait quelque chose de maritime, de profondément maritime. La façon dont le vent galopait dessus aussi, avait quelque chose de profondément lié au départ, à l'ailleurs, aux horizons possibles. Je crois que c'est ça que je venais chercher quand j'avais 12 ou 13 ans ici, de façon à la fois très sûre et très tâtonnante.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
Et on savait, lorsqu'on était évidemment une petite fille comme vous, que de toute façon, on partirait. Parce que d'abord, vous n'étiez pas un garçon, vous ne pouviez pas reprendre la ferme. Donc, c'était déjà écrit, quoi, cette affaire.
Oui. Alors, c'est amusant que vous disiez que c'était déjà écrit, parce que ça n'était même pas dit. Voilà. Et on n'écrivait rien, on ne disait rien non plus, mais c'était tacite. On savait, sans le savoir, tout en le sachant, que les filles, donc moi j'ai grandi dans les années 70, hein, dans ces lieux et ces milieux-là, dans ces fermes de moyenne montagne, familiales, petites propriétés, les filles étaient vouées à partir, à inventer leur vie ailleurs. Et si elles avaient comme moi le bonheur d'aimer l'école et d'être aimées de l'école, elles partiraient par l'école. Elles deviendraient institutrices. C'était ce qui n'était pas dit, mais qui était, comme une sorte d'horizon d'attente qui n'était pas hors d'atteinte.
Alors Marie-Hélène, pour ceux et ceux qui ne connaissent pas forcément le Cantal, moi je reprends une de vos phrases, vous dites qu'en fait il est accroupi au centre de la mêlée des terres.
Et il tient bon.
Ouais.
Ça c'est la métaphore rugbystique.
C'est ça.
Mon père jadis, mon frère aujourd'hui sont de fervents supporters de l'équipe de rugby d'Aurillac.
Oui.
J'aime beaucoup cette métaphore et elle me vient très facilement parce que c'est ce accroupi, vous voyez, et se mêler aussi. C'est-à-dire, ici, il faut s'en mêler. Hein, c'est-à-dire que pour gagner sa vie comme paysan, pour l'arracher comme paysan, j'ai toujours vu les hommes et les femmes aussi d'ailleurs, hein, de la génération de mes parents et ceux qui les ont suivis, qui leur ont succédé, s'empoigner sacrément. Hein. Ils n'y vont pas du bout des dents. Hein. Il y a une sorte d'énergie assez phénoménale et nécessaire et indispensable. Et aussi, Massif central. Donc, C'est comme si on avait le sentiment d'avoir une place dans le monde, de laquelle on peut prendre impulsion pour aller dans le monde, justement. Je n'ai jamais eu un rapport, identitaire et fermé à ce sentiment d'appartenance.
Je reprends ce qu'on dit avec Jean-Louis Etienne sur le Tarn, c'est-à-dire qu'on a des racines sans être enraciné.
Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini par écrire dans les sources que je préférais le mot source au mot racine, parce que le mot racine, il traîne quand même derrière lui de fâcheuses casseroles qui sentent le rance. Mais je rends grâce aux racines d'être ce qu'elles sont pour les arbres. Vous voyez? Mais dans le mot source, vous avez la fluidité, vous avez l'eau, vous avez la transparence. Et les eaux ici, elles sont mêlées et emmêlées.
J'adore la montagne, la neige surtout. C'est pour ça que j'aime l'hiver, c'est ma saison préférée. Et toi, papa, c'est quoi ta saison préférée?
L'automne. C'est l'automne parce que c'est toujours le début de quelque chose. C'est le début de l'année, c'est la rentrée scolaire. Et une fois, j'étais étudiant et j'ai vu ta mère, voilà. Maintenant, tu sais pourquoi.
Et toi, Léna, c'est quoi la saison que tu aimes le plus? Justement, je sais pas. C'est pour ça que je demande aux autres. Vous avez de la chance de savoir.
Quand on parle des saisons ici, à une époque, on disait, en fait, il y en a que deux, des saisons.
Oui, absolument. J'avais un ami qui disait, il y a deux saisons ici, le 15 août et l'hiver.
C'est ça. Alors, c'est pas une très bonne pub touristique.
Non, mais c'est très radical. Mais ça m'a toujours beaucoup fait rire.
C'est plus nuancé quand même.
Oui, alors c'est plus nuancé, mais elles sont effectivement marquées, les saisons ici. Hein.
Ouais.
Mais je tiens quand même à dire une chose, hein. C'est que je n'ai pas, depuis plus de 40 ans, depuis 1980, où je suis partie à Paris faire mes études, où je suis restée, où j'ai enseigné, etc., je n'ai pas vécu l'hiver en continu ici. Je dis que ceux qui sont de ce pays, plus assurément que moi, sont ceux qui y passent l'hiver. Mmh. Soit parce qu'ils y sont nés et ont choisi d'y rester, soit parce qu'ils ont choisi de venir y vivre. J'ai vraiment une conviction absolue là-dessus.
Mais vous, en fait, vous êtes une hirondelle, parce qu'en fait, vous revenez à chaque fois, quoi.
Oui, alors c'est ça.
Vous revenez
au nid, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de ça. C'est fragile, vous savez, les hirondelles.
Oui.
Toute ma vie, j'ai vu les hirondelles, parce que dans la ferme, dans la grange de la ferme de mes parents, il y avait les hirondelles.
Elles sont inféodées aux vaches aussi. Hein.
Voilà, donc elles étaient là, et elles arrivaient, voilà, c'est tout un cycle. Hein. Elles repartaient, on les voyait se rassembler sur les fils électriques, on les comptait, voilà. Et on les attendait au printemps. Et je me souviens, ensuite, quand j'étais déjà à Paris, mon père, qui pourtant n'était pas poète, hein, je vous prie de le croire, hein, eh bien, il me disait au téléphone quand elles étaient arrivées. Il me disait « elles sont arrivées ». Et je me souviens d'une année où elles étaient arrivées. Ensuite, il y a eu un retour de bâton phénoménal d'une météo très, très hivernale. Ouais. Et mon père a trouvé des hirondelles mortes dans la grange. Et encore une fois, hein, c'était pas un sentimental, mais alors ça, il m'en avait parlé,
ouais,
vous voyez. Ah, mais complètement,
ouais.
Complètement. Et ici, quand j'étais enfant et adolescente, je ne sais pas si ça se raconte encore, mais une grange dans laquelle les hirondelles ne revenaient plus, ça voulait dire qu'un cycle de malheur menaçait de s'ouvrir pour vous.
Les dernières hirondelles vers d'autres cieux plus cléments s'éloignaient à tire-d'aile sous la pluie et dans le vent. Un joueur de mandoline égratignait sous l'auvent la chanson de Colombie à l'attention des passants.
Il est chouette là, ce chemin là.
À l'orée de ce chemin,
ouais.
Exactement celui-là, j'ai un souvenir, mais je devais avoir, je pense que j'étais en troisième, 14-15 ans. Donc, quand je partais comme ça, hein, marcher, faire mes patrouilles du dimanche après-midi, je partais toujours seule. Même si les chiens m'accompagnaient en début de patrouille, ils venaient pas forcément aussi loin
jusqu'au
avec
bout.
Moi.
Ouais.
Voilà. Bon. Heureusement que j'étais là seule ce jour-là, sinon ça ne serait pas arrivé. Donc, j'arrive au tournant là-bas du chemin. Vous voyez le tournant là, hein. Et là, à la place où nous sommes en plein jour, hein, un renard.
Ah oui.
Bon, il m'a vu arriver, je pense qu'il n'était pas craintif.
Non.
Il y avait des poulaillers, là. À mon avis, il était en train de faire une petite patrouille, histoire de voir s'il y avait quelque chose à se mettre sous la dent. Il a bien vu que j'étais sans chien. Voilà, bon, je me suis arrêtée. Il s'est arrêté. On s'est regardé.
Qui es-tu ? Tu es bien jolie.
Je suis un renard.
Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste.
Je ne puis pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisée.
Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens.
Créer des liens ?
Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre.
Vous regardiez,
c'était, c'était un moment d'une totale magie. Et je ne peux pas être à nouveau ici sans penser à ce renard très mort et très très disparu. Et cependant, toujours incarné là.
Il était là, il nous regardait, donc ce renard avec Marie-Hélène Lafont. Et au-delà de Hors-Champ, donc chez Buchet-Chastel, donc son dernier roman, je voulais aussi vous signaler Au sommet sur un plateau à l'intérieur. Au sommet sur un plateau à l'intérieur, c'est un éditeur qui s'appelle Quelque part sur la Terre. Très joli nom, hein, les éditions Quelque part sur la Terre, avec des tableaux photographiques incroyables de Pierre Soisson et un texte sur le Cantal, donc de Marie-Hélène Lafont. On la retrouve dans quelques instants. Ah, où partons-nous ?
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur.
Une maison et sa fontaine que je souhaitais donc vous rediffuser, donc avoir la fin de CO2 Mon Amour. Et donc on va poursuivre ce voyage avec Marie-Hélène Lafont. Et quand je parlais tout à l'heure effectivement de paysages et de tableaux, et ben en fait l'éducation picturale de Marie-Hélène Lafont, elle a été dispensée par les paysages du Cantal. Voilà. Et on retrouve ça hier aussi, cette écriture qui est vraiment écriture à l'os, une épure dans le dernier ouvrage, donc qui s'appelle Hors-Champ. Donc ça c'est son roman chez Buchet-Chastel, hein, qui est vraiment son éditeur vraiment emblématique depuis longtemps. Depuis le début. La matière, c'est le lien dans les fratries. Hein. C'est ce qui reste de ce lien quand les parents ne vont plus être là ou bien qu'ils chancellent. Donc, il y a toujours un terreau commun entre les frères et les sœurs. Et puis après, évidemment, il y a la vie de chacun. Donc, la matière de ce livre, c'est ce qu'il advient. C'est vraiment très, très bien. Hors champ, on y retourne. Où ça? Dans le Cantal.
Ici, hein, sur ce plateau, hein, on a Aubrac, Salaire et parfois même des troupeaux d'autres obédiences, pas toujours très lisibles pour moi, probablement des limousines, etc. Hein. Et dans l'économie, pour le coup, des fermes de ces communes-là, hein, puisqu'on est dans la zone de fabrication du Saint-Nectaire, hein, donc la plupart des fermes aujourd'hui hein, ont double troupeau. Si on fabrique du Saint-Nectaire, on a un troupeau de Montbéliard en général, pour la traite et la fabrication. Voilà. Hein. Et on a par ailleurs, pour la viande, un troupeau soit de Salaire, soit d'Aubrac.
Marie-Hélène, on est en train de marcher là, ça veut dire qu'on laisse une trace. Ça, c'est un mot qui vous est extrêmement cher.
Oui, c'est profondément enfoui en moi, ça. La question des traces, celles qu'on laisse, celles qu'on ne laissera pas, et celles que laissent les renards sur la neige parfaite. Et la neige parfaite et le renard, ça me fait toujours penser à ce texte extraordinaire qui n'est pas publié dans un livre, je crois qu'il l'avait donné dans une revue de Pierre Michon, où il raconte une anecdote de son enfance où il est avec sa mère, la neige est tombée, on est en Creuse, sa mère le tient par la main, il a des moufles, c'est le crépuscule bleu et il voit passer un renard qui laisse une trace dans la neige. Et il a cette phrase, mais qu'a-t-il donc le renard pour que prononcer son nom nous bouleverse ainsi ? Et cette phrase-là, la perfection de cette phrase-là, c'est la perfection de la trace du renard laissée par le renard sur la neige bleutée au coin du bois le soir, quand la nuit monte. Et c'est comme ça qu'il faudrait écrire, et il faudrait écrire comme on peint. Ouais. Si la langue travaillée nous donne le moyen de faire ça, c'est quand même une grâce. C'est à ça que je tends. Je ne veux pas dire que j'y parviens, mais c'est à ça que je tends.
Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard, en arrivant.
Grandir dans ce paysage, ça vous place devant quoi, Marie-Hélène ?
Bon, peut-être que le mot est immense après tout, mais pourquoi pas, soyons immenses, ça vous place devant la beauté des choses.
Ben oui.
Je pense toujours à Aragon, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, voilà. Et la beauté des choses, là voilà, moi je suis née dedans. Alors, c'est une notion relative, chacun a sa beauté des choses. J'eusse pu naître à la Garenne Colombe et avoir une vision de la beauté des choses à la Garenne Colombe. Il se trouve que c'est ici que j'ai grandi.
C'est marrant parce que vous choisissez quand même une commune où on parle du mot de Garenne, donc un mot de nature, et Colombe.
De Colombe, je ne pense même pas en le disant, mais j'entends bien ce que vous dites, tout à fait, la Garenne et la Colombe.
Ben oui.
Mais j'ai toujours eu le sentiment, moi, d'être du côté de la nourriture, vous voyez, et d'être aussi, dès l'enfance, c'est pour ça que j'aimais ces promenades du dimanche après-midi, d'être prise au bras, embrassée littéralement par le paysage, et comme rassérénée par lui, peut-être même comme consolée par lui, d'une angoisse d'être qui est constitutive de l'être humain. Je crois que le recours au paysage, pour moi, il s'est imposé comme ça, d'emblée. C'est une grâce, c'est une chance.
Et alors cette grâce, elle est recouverte quand même par l'herbe. Et elle revient, elle aussi, comme une folle tout le temps, quoi.
Alors là, c'est l'herbe en version chiffonnée d'hiver.
Oui.
Hein. Mais on sait qu'en devenir et en promesse sûre, l'herbe qui va jaillir là, c'est mai, c'est juin. Juin, ici, c'est une pure folie. Une pure folie. Et l'herbe, ici, pour le coup, on ne la sème pas, hein, elle pousse, elle jaillit drue du cœur du volcan, je ne peux pas le dire autrement. Hein. Ouais. C'est pas un hasard si toutes ces parcelles-là que l'on a sous les yeux, ce sont des estives. Hein. Ouais. Donc les vaches viennent manger là de mai à octobre et quand elles montent en mai, alors s'il fait un peu froid, c'est encore un peu, l'herbe est encore un peu rase, hein, mais ça jaillit plus que ça ne pousse, très honnêtement. Et puis ensuite, cette herbe, Elle devient foin, on la fauche. Tout le monde a plus ou moins comme ça, c'est comme les invisibles et persistants lilas de Proust. Tout le monde a plus ou moins comme ça, en mémoire, dans sa peau, des effluves de foin. Je ne peux pas voir l'herbe sans avoir une remontée d'effluves de foin. Et ce que j'aime aussi dans l'herbe, c'est qu'elle s'inscrit, pour moi, dans un cycle paysan. Elle est fauchée, elle va nourrir les vaches, etc., etc.
Et vous voyez, peut y avoir un regain.
Bien entendu, bien entendu. On fait la première fauche, la première coupe, et ici, fréquemment, on dit faire du regain. Ils ont fait du regain. Ah, ça c'est
joli, ça.
Voilà, faire du regain.
Alors, il y a deux mots chez vous qui ne sont absolument pas dissociés, c'est attachement et arrachement.
Oui, ben, l'attachement, je pense qu'on l'entend. Hein,
oui,
et l'arrachement, ben, il est sociologique. Hein. Encore une fois, les filles de ma génération, elles n'étaient pas vouées à rester là. Hein. Et on ne savait pas le faisant. Hein. Enfin, moi, je ne savais pas. J'ai mis un certain temps à mesurer, à sentir, à comprendre à quel point ça allait justement nous séparer.
Ouais.
Oui. On pouvait rester attachés, mais on était séparés.
Sure.
On ne vivrait pas comme avaient vécu nos parents. Et a fortiori, quand on était une fille, on n'aurait pas la vie de nos mères. Et obscurément, elles le savaient, nos mères. Oui, vous voyez. Et là, il y avait de l'arrachement. Alors, arrachement peut être vital et nécessaire. Hein.
Oui.
Je n'ai aucune aptitude à la nostalgie. Il ne s'agit pas de célébrer un vert paradis des enfances bénies. Hein. Il ne s'agit pas non plus de dire que c'était mieux avant. C'était autrement.
Marie-Hélène Lafond, quand vous écrivez, on parlait de traces, mais on peut parler d'empreintes aussi. Vous, votre travail, c'est de prendre des empreintes, en fait, de ce pays.
Oui.
Même si c'est un pays qui n'est plus, qui bouge, etc. Mais ça fait partie de votre boulot, ça.
Oui, oui, oui. Il y a une dimension testimoniale, documentaire même, et sociologique aussi. Et je crois que j'en ai été plus ou moins consciente. Je ne la porte pas en bandoulière. Je n'ai rien d'une passionnariat ni d'une porte-parole, mais ça fait partie de mon geste d'écriture. Et ça fait partie de ma nécessité à écrire aussi. Et j'ai toujours su que si un jour j'écrivais, j'ai très tôt eu ce désir, mais j'ai mis très longtemps à me placer en face de lui, à 34 ans, mais j'ai toujours su que si un jour j'écrivais, j'écrirais du lieu et du milieu d'où je venais.
Ça, c'était,
oui. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis si longtemps à commencer. Parce que il y avait un interdit majeur hein, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, sur le soi.
Oui, on n'avait pas le droit.
Non. Le soi,
c'était presque indécent,
relevait de l'intime,
quoi.
On n'allait évidemment pas en parler, et encore moins en écrire. Et ça, c'était implicite, bien sûr, hein, jamais exprimé. Mais c'était très présent, très fort. Très, très fort.
C'est émouvant le soir de sentir les prémices de l'automne sur le Val de Creuse. La nature a quitté pour cette fois son trône de splendeur, d'ironie et de sérénité. Clémente, elle descend par l'ampleur de l'air jaune vers l'homme, son sujet pervers et révolté. Mais c'est de qui, ça, déjà? Eh oui, on connaît que lui.
Vous savez, moi, la poésie, je suis pas sûr de bien comprendre, en fait.
Ah non, mais il n'y a rien à comprendre. Il faut la sentir et la vivre. Et il faut avoir été malheureux en amour, peut-être.
Ben, vous voyez, Marie-Hélène, on n'a pas eu besoin de prononcer le mot de nature. Tellement ça va de soi, là.
Ben, pour tout vous dire, moi, le mot nature... Je ne l'emploie jamais, sauf pour les yaourts.
Je comprends. Comme ça me donne une indication lorsque je vous offrirai un yaourt, d'accord?
Je ne l'emploie pas.
Non, mais parce que vous y êtes, vous le respirez, vous l'écrivez, il n'y a pas besoin de le décortiquer. Quoi.
Non. Non, c'est une donnée première.
Voilà.
C'est le pays premier.
Alors, les éléments, vous avez vécu avec les éléments.
Oui. Le vent, la lumière.
Premier personnage. Hein,
ouais. Ah, le vent ici, c'est fondamental. Le vent, la lumière, les eaux, les cycles de saison, la lune. Ce que c'est que la pleine lune, là, c'est absolument grandiose.
J'ai un peu le sentiment qu'ici, la nuit ne tombe pas, mais qu'elle s'élève.
Et elle monte, oui, oui, ça, j'ai toujours eu cette sensation aiguë. J'ai toujours aimé les crépuscules, je les ai toujours guettés, enfants, adolescentes, et c'est dans les premières pages de l'annonce, hein. J'attaque comme ça, quoi. La nuit de Fridière ne tombe pas, elle monte, elle suinte et elle monte. Et là, vous voyez, il doit être à peu près 16 heures, voilà, peut-être. Ça, hein. Oui. Ça va pas tarder à monter.
Non, c'est pas loin, tiens, tracteur.
Crépuscule,
là.
Voilà. Il arrive dans le chemin, là, derrière nous, en fait.
Allez, on se met de côté. On va y laisser passer. Ouais. Marie-Hélène Lafont, que peut-on vous souhaiter dans votre merveilleux Cantal ?
La beauté toujours recommencée. Et partager.
C'est pas mal hein, pour se quitter, ça. Je trouve que c'est bien. À bientôt, Marie-Hélène Lafont.
À bientôt, Denis Chessou.
Alors, Marie-Hélène Lafont, vous la retrouvez bien sûr dans Hors Champ, hein, donc ce dernier roman extrêmement puissant aux éditions donc Buchet-Chastel, avec évidemment le Cantal. Et oui, on retrouvera évidemment ce Cantal. Et puis au sommet, sur un plateau à l'intérieur, donc ce livre de photos aux éditions Quelque part sur la Terre. Merci aussi à Marc Delbord de Cantal le Tourisme. Et puis la semaine prochaine, eh ben, je vous emmènerai à faire une coquille Saint-Jacques Story. Ouais, alors ça ne peut pas être le même registre. Hein, non, pas du tout. Je vais vous retrouver à Port-en-Bessin. En Normandie. Merci à Mathias Saléon, à Camille Blanès, à Xavier Pestudia. Alors, je vous signale que Xavier Pestudia, oui, colorise formidablement toutes mes émissions. Mais, en plus, eh ben, il est derrière la caméra. Et donc, il vous attend le 30 janvier à 20h30 au cinéma Alticiné de Montargis, donc à Montargis, le 30 janvier. C'est son premier long-métrage documentaire qui s'appelle « Supplique à nos fantômes ». Très intéressant, « Supplique à nos fantômes », qui est consacré en fait à l'emprise maternelle. Donc ça, c'est un autre sujet, « Supplique à nos fantômes », 30 janvier, 20h30, Montargis, notre Xavier Pestudia. Je vous retrouve sur LinkedIn, sur Instagram, sur plein de choses. Et puis, Radio France, avec les éditos que vous pouvez retrouver. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end.